Chapitre 60. La dernière exécution. Des 7 accusés reconnus coupables d'avoir pris part à l'assassinat du courrier de Lyon, 6 avaient donc porté leur tête sur l'échafaud. Il en restait encore un à atteindre et celui-là ne devait pas tarder à tomber sous la main du bourreau. Le lecteur se rappelle sans doute ce roussi que Dubosc et Claudine avaient rencontré dans les Pyrénées et qui continuait en Espagne le métier de bandit qu'il avait exercé si longtemps en France et en Italie. Seulement, comme on le pense bien, en Espagne, Roussi avait changé de nom et se faisait appeler Beroldi. C'était un homme audacieux, entreprenant, mais il est rare que la justice ne finisse pas par avoir le dernier mot avec les criminels, et un jour, la police française reçut d'un seigneur espagnol une demande de renseignement sur le compte de ce misérable. Il paraît qu'à ce moment, il avait renoncé à ses exploits de grand chemin et qu'il exploitait à Madrid un nouveau procédé pour l'épuration et la conservation des huiles. On le découvrit juste au moment où il commençait à se ranger. La police française n'avait qu'un vague souvenir de ce Beroldi. Ceci se passait à la fin de l'année 1803. Cependant, on consulta les dossiers, on remonta aux déclarations de Courriol et de Durochat, et l'on acquit la preuve que ce Beroldi devait être le Roussi ou Rouchi désigné précédemment comme un des complices de l'assassinat du courrier de Lyon. Des ordres furent donc donnés immédiatement pour son arrestation, l'extradition fut demandée et obtenue, et l'on arracha le tranquille marchand d'huile au commerce qui paraît se faire désormais toute sa préoccupation. À son tour, il comparut devant le tribunal criminel de Versailles pour y répondre aux charges qui pesaient sur lui. Le procès ne dura pas longtemps. Beroldi était peu digne de pitié et les faits étaient évidents. Beroldi ne fit aucun aveu. Sa défense, comme celle de Dubosc, se borna à cette réponse qui lui semblait péremptoire. Il y a eu 5 criminels. Vous avez déjà exécuté 6 condamnés et vous demandez encore une tête. Ceci n'était pas dénué de sens, mais il y avait à cette prétention une objection des plus simples. C'est qu'il y avait eu 7 criminels et non pas 5, et qu'avec Beroldi, la justice avait son compte. Il fut donc déclaré coupable d'assassinat et condamné à la peine de mort le 19 février 1804. Le jour du supplice, une heure avant l'exécution, le procureur impérial, autorisé par la cour de justice, qui n'oubliait pas les intérêts de l'Eusurc, se rendit auprès du condamné et lui adressa quelques questions à l'effet d'éclaircir les doutes qui continuaient de planer sur le malheureux que l'on croyait innocent. Voici la déclaration de Roussi, telle qu'elle figure au procès-verbal de cet interrogatoire extra-légal. À lui demander s'il a connu le Sarc, a répondu non. À lui observer que sa déclaration intéresse la famille Lezur, si ce dernier avait été condamné quoiqu'innocent, ou la société et la justice s'il avait été condamné comme coupable, a répondu qu'il persista à déclarer qu'il ne le connaît pas et n'a jamais connu de Lezur et que lui, Beroldi, est innocent. Qu'au reste, il est inutile d'écrire innocent puisqu'il va périr comme coupable. Après cette déclaration, il fut remis aux mains de M. le Grand-Pré, curé de Notre-Dame de Versailles, qui lui donna des secours et des consolations et l'accompagna jusqu'au pied de l'échafaud. Ce qui se passa, à partir de ce moment, entre le condamné et le prêtre, ce dernier ne pouvait le révéler. Mais, après l'exécution, le digne ecclésiastique se rendit chez le magistrat de sûreté et lui fit connaître que Beroldi, qu'il venait d'assister, l'avait autorisé à dire que le jugement qui le concernait était bien rendu. À lui demander si Roussi l'avait aussi autorisé à parler de Lezurc et ce qu'il a pu en dire, a répondu que Roussi ne l'avait pas autorisé à parler de Lezurc, que 2 jours avant l'exécution, il lui avait remis, écrit de sa propre main, un testament de mort dont il exigea que l'ouverture fût différée de 6 mois. Selon le vœu du supplicié, l'écrit confié à M. de Grandpré fut déposé chez M. d'Estremaux, notaire à Versailles. 6 mois plus tard, le même curé se présentait chez le dit notaire, qui rédigeait un acte dans lequel nous lisons: a requis le dit notaire de mettre au rang de ses minutes, à la date de ce jour, l'original d'un écrit fait à Versailles. Le dit écrit, timbré à Versailles aujourd'hui, enregistré à nous, représenté par le dit sieur curé et à sa requête annexée à la minute des présentes, après avoir été de lui certifié véritable, et suivait la teneur de l'annexe. Versailles, 9 Messidor en 12. Je déclare que le nommé Delessurgue est innocent, mais cette déclaration que je donne à mon confesseur, il ne pourra la déclarer à la justice que 6 mois après ma morte. Signé Louis Béroldi. C'était le dernier acte de ce drame. Et le 7e criminel avait été exécuté sans que l'on fût parvenu à mettre en lumière l'innocent de l'usurque. Désormais, la chose était jugée, et c'est contre la chose jugée que la famille du malheureux allait lutter héroïquement. Chapitre 61. La chose jugée. Nous touchons à la fin de cette longue histoire. Mais avant de clore ce récit, nous demandons à nos lecteurs quelques moments encore de bienveillante attention. Il s'agit d'une chose grave entre toutes, dont il ne faut pas parler légèrement et devant laquelle les esprits les plus éminents et les plus libéraux même se sont constamment inclinés. La magistrature, qui semble le plus intéressée dans la question, a donné parfois de curieux et bien remarquables exemples de ce respect dont elle veut qu'on entoure la chose jugée. Un homme éminent, un garde des Sceaux, prononçait à ce propos des paroles qu'il est utile de rappeler ici. Le seul motif pour réviser les procès criminels, dit-il, serait le petit nombre de familles frappées dans l'un des leurs par un arrêt injuste et soumises à l'effet de ce préjugé qui ne sera jamais entièrement détruit. Parce qu'il imprime cette vérité morale que l'on participe à la honte comme à la gloire de ses proches. Mais cet intérêt ne peut être mis en parallèle avec l'inconvénient de remettre en question, après leur exécution, la vérité ou l'erreur des condamnations capitales, lorsque les familles ne se présenteraient la plupart du temps que de longues années après l'arrêt. Lorsque les preuves auraient dépéri et qu'il y aurait bien moins de probabilité pour la manifestation de la vérité qu'au jour même de l'arrêt attaqué, lorsque ces demandes s'appuieraient presque toujours ou sur la fureur, ou sur l'inimitié, ou sur la réaction, ou enfin sur un de ces mouvements de l'opinion populaire plus passionnés encore, en résultat, pour une justice, injustice réelle, reconnue et bien imparfaitement réparée, on ébranlerait dans ses fondements la justice elle-même. Il y a, sur ce sujet, un fait saisissant que l'on m'a raconté récemment et que nous ne pouvons résister au désir de raconter à notre tour. Un jour, un homme comparaît devant une cour d'assises de Provence sous l'inculpation d'assassinat. Cet homme est accusé d'avoir tué la nuit d'un coup de fusil un malheureux dont la femme l'avait, assurait-on, poussé à ce crime. L'accusé était garde-chasse. Il jouissait d'une bonne réputation. On ne put établir la preuve manifeste de sa culpabilité, et après une longue suite d'audiences, pleines d'émotions de toute nature, il fut rendu à la vie sociale. La justice crut en conséquence qu'elle avait été trompée par les apparences, et elle se mit à rechercher ardemment le vrai coupable. Un homme avait été assassiné, le fait n'était pas douteux, il devait donc y avoir un assassin. Mais où le trouver? La justice chercha longtemps, si longtemps que ce ne fut que 10 ans après qu'elle parvint à découvrir un nouveau prévenu qui fut immédiatement traduit devant la cour criminelle. Les charges paraissaient accablantes. Le prévenu repoussait bien avec une certaine énergie l'accusation dont il était l'objet, mais tous les coupables en font autant, et les protestations d'innocence ne prouvent pas grand-chose en pareil cas. Toutefois, il y avait des points obscurs dans l'affaire et particularités singulières. Le garde-chasse, précédemment acquitté, se trouvait mêlé à ses côtés pleins d'ombre. Le président des assises, usant de son pouvoir discrétionnaire, fit appeler cet homme, lui exposa les charges qui s'élevaient contre l'accusé et finit en l'invitant à donner à la justice des explications sincères de nature à éclairer la religion des jurés. L'homme, ainsi interpellé, hésita un moment. Il embrassa d'un regard troublé la salle d'audience, les magistrats, les avocats, les jurés, et s'arrêta enfin à contempler le malheureux que la honte et le désespoir clouaient sur le banc d'infamie. Ce qui se passait dans l'esprit du garde-chasse parut d'abord incompréhensible, mais il rejeta toute indécision, releva vivement la tête et s'adressant à la cour, « Monsieur le Président, dit-il d'une voix émue, l'homme qui est là est innocent du crime qu'on lui impute. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez ? Répondit le Président. J'en suis sûr. Alors vous connaissez donc le coupable ? Je le connais. Et quel est-il ? C'est moi.
Vous ?
Oui, moi, monsieur le Président. Moi qui seul ai commis le meurtre et dans des circonstances que je puis raconter à la cour. » Alors, et pendant que les juges échangeaient des regards effarés, pendant qu'un profond étonnement agitait les spectateurs, cet homme commença le récit de son crime. Ce fut solennel et terrible. Le malheureux, mordu au cœur par le démon de la jalousie, avait frappé sa victime au détour du bois. Il savait que son rival heureux devait passer là et s'était armé de son fusil. C'était un adroit tireur. Il s'embusqua lâchement dans un taillis et au milieu du silence de la nuit, il attendit. Ce ne fut pas long, il avait tout calculé et quand la victime se présenta au bout de son canon, il fit feu et s'enfuit. Il fut explicite, n'oublia aucun des détails de l'affaire, et quand il eut fini, la conviction était entrée pleine et entière dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Cette scène ne manquait pas d'un certain caractère de grandeur. Cet homme qui avouait ainsi son crime à travers ses sanglots et ses larmes n'était pas indigne d'intérêt. Après son récit, le président resta quelques instants silencieux. C'était là une chose nouvelle et peut-être unique dans les annales judiciaires. Il eut un moment d'hésitation et de trouble dans sa conscience. Mais bientôt, le sentiment du respect dû à la chose jugée se réveilla tout entier en lui, et se rappelant que le bénéfice de la prescription était acquis à ce malheureux qui s'accusait, il tourna vers lui son visage impassible. « Témoin, dit-il alors, d'une voix pleine d'autorité, calme et ferme. Témoin, la cour est éclairée, vous pouvez aller vous asseoir. » Chapitre 62. La lutte obstinée. Tant qu'il restait un des complices de l'assassinat du courrier de Lyon, la veuve Lezurc avait espéré que l'innocent de son mari sortirait évidente des nouveaux débats et qu'elle parviendrait à faire réhabiliter sa mémoire. Quand Roussy eût été condamné et que tout compte fait, 7 têtes eurent été tranchées sans qu'aucune manifestation ne se fût produite en faveur de Lezurc, la malheureuse veuve, sans se laisser abattre par tant d'espoirs déçus et d'illusions brisées, commença cette lutte héroïque qu'elle devait poursuivre sans relâche jusqu'à la mort. La condamnation qui avait frappé le Zurk l'avait atteinte elle-même dans son honneur et dans sa fortune. Et si la veuve eût pu hésiter dans les revendications de ce double héritage sacré, la mère ne devait pas faillir à ce devoir. Dès l'année 1804, une requête est représentée à la cour criminelle séante à Versailles. C'est le sieur Le Zurk, cousin du supplié, sied, qui la signe. Il s'exprime ainsi. Une famille dans les larmes depuis 8 ans, une veuve et ses enfants réduits à la misère, le déshonneur attachant tous les jours son cachet sur des têtes que la loi a frappées dans la personne de son chef accusé d'avoir été un des assassins du courrier de Lyon. Tels sont, messieurs, les motifs qui dirigent nos efforts pour réhabiliter la mémoire d'un parent dont ma conscience, éclairée par la conviction de son innocence, l'attestera à la face du ciel et des hommes jusqu'à mon dernier soupir. Demande de lever copie de tous les procès-verbaux de jugement qui sont relatifs à cette affaire. À cette demande, et conformément aux conclusions du procureur général, la cour a attendu que les requérants ne sont partis au procès, qu'aucune loi n'autorise les demandes en révision des procès criminels, rejette la requête. Le greffier, noble. C'était un premier échec, mais la famille n'en fut pas ébranlée. Elle attendit une nouvelle occasion. En 1806, 2 années après, une seconde en requête était remise par M. de Menthon lui-même au grand juge Régnier, à l'effet d'obtenir la réhabilitation de Le Zurk. La réhabilitation d'un innocent condamné et exécuté est de droit public, prétendait M. de Menthon. Il n'existe plus de loi qui règle les preuves à suivre. Elle peut être faite. C'était toujours la même argumentation. La réhabilitation de l'innocent. On oubliait qu'une chose, c'est qu'à diverses reprises, la révision du procès Le Zurk avait été faite et que jusqu'alors, rien n'était venu manifestement démontrer son innocence. Dans ces conditions, la réhabilitation était vraiment impossible. À notre avis, la veuve Le Zurk n'était réellement dans la plénitude de son droit, dans la logique de la vérité sociale, que lorsqu'elle réclamait les biens dont on l'avait spolié. Sur ce terrain, les sympathies ne pouvaient pas lui manquer et elle devait éveiller l'intérêt de tous les honnêtes gens. La confiscation était un dernier vestige des mœurs barbares du Moyen-Âge. Toute âme sincère et droite devait protester contre une pareille iniquité. Les biens de Le Zurk avaient été assignés au Sénat. Mais M. le comte de Jacqueminot, à qui on voulait attribuer le domaine du Ferrin, comme devant former la dotation de sa sénatorerie, refusa péremptoirement ce don. « Je respecte trop, dit-il, le champ du malheur, pour recevoir des biens entachés du sang d'un innocent. Il faut les restituer à la famille de la victime. » Malheureusement, cette famille infortunée se débattait vainement dans un cercle vicieux. La restitution ne pouvait être obtenue qu'à la condition de réhabiliter Le Zurk, et tous les magistrats repoussaient l'idée de cette réhabilitation. Dans cette situation, la veuve résolut de faire une démarche auprès de l'empereur. Un jour, au détour d'une galerie, Napoléon aperçoit 2 jeunes gens agenouillés, les mains jointes. C'était la fille aînée de Le Zurk et son jeune frère. « Grâce, sire, pitié !» disaient les 2 enfants. « Notre père est innocent !» L'empereur se sentit ému. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il en les relevant avec bonté. « Mélanie Augustine Le Zurk, » répondit la jeune fille. « Alexandre Joseph Le Zurk, » répondit le jeune homme. Napoléon réprima un premier mouvement de surprise. « Bien, mes enfants, répondait-il d'un ton bref, j'apprécie votre démarche. Je me ferai rendre compte de cette affaire. Et dans 3 jours, je vous répondrai. » L'empereur allait s'éloigner. Il vit que le jeune Lesurque hésitait à lui adresser une seconde demande. « Quoi, que voulez-vous » ajouta-t-il sur le même ton. « Sire, dit le jeune homme avec une assurance digne et noble, j'ignore ce que votre majesté va décider, mais je voudrais dès à présent solliciter une faveur de sa bienveillance. »« Quelle faveur ?»« Celle de contracter un engagement dans un de ses régiments. » Vous voulez vous faire soldat? Je veux prouver à votre majesté que le sang qui coule dans mes veines est digne de couler sur les champs de bataille pour la gloire de mon pays. Napoléon fit un geste d'assentiment, puis il s'éloigna soucieux et troublé. 3 jours après, les deux enfants retournaient aux Tuileries. Dans l'intervalle, l'empereur s'était fait rendre compte de tous les détails de l'affaire. Et le conseiller consulté à ce sujet avait rendu un avis défavorable. La jeune fille retourna navrée auprès de sa mère, et le jeune homme s'engagea peu après dans un régiment de hussards. L'année suivante, il partait pour la campagne de Russie, d'où il ne devait jamais revenir. Un fait plus grave se passe en 1814. La famille s'était adressée à M. d'Ambray, chancelier et ministre de la Justice du roi Louis XVIII, et demandait à nouveau que les pièces du procès lui fussent communiquées. La demande fut renvoyée au procureur général, M. Legout, et quelques jours plus tard, ce magistrat repoussait la demande en affirmant que, vérification faite des pièces, la coopération de Lesurque à l'assassinat du courrier de Lyon était de la dernière évidence. Cette réponse était terrible. Elle atterra les amis de la famille et pendant quelques années, ils comprirent qu'ils devaient renoncer à toute démarche. Mais le retour des Bourbons, la restauration d'un nouveau gouvernement, allait changer la face des choses. Et vers 1821, le procureur général Bellart autorisa enfin la communication des dossiers. Cette décision annonçait de meilleures dispositions de la part des autorités et la famille Lesurque ne négligea rien pour les mettre à profit. Lesurque ayant été frappé par un jury républicain, il était naturel que sa cause trouvât des sympathies auprès d'un gouvernement qui avait en horreur tous les souvenirs de la Révolution. On exploita habilement ce sentiment. On émut l'opinion publique avec les excès d'une époque que la politique du jour ordonnait de réprouver. On accusa le jury, cette institution républicaine, d'avoir assassiné un innocent. Et grâce à ce mouvement auquel se laissèrent prendre volontiers tous les esprits généreux, on gagna rapidement à Lesurque de nouveaux et chaleureux amis. C'est alors que M. Salgues publia sur cette affaire une notice fort vive qui fut répandue à profusion dans Paris et par toute la France et dont on envoya même un exemplaire à M. le comte Siméon, alors ministre de l'Intérieur, et dont le rapport aux 500 avait jadis, on se le rappelle, fait rejeter le pourvoi de Lesurque. Cette notice fut présentée aux deux chambres, accompagnée d'une nouvelle pétition en faveur de la famille Lesurque, et elle y reçut un accueil empressé. Deux commissions furent nommées sur le champ, et peu de temps après, les rapports étaient livrés à la publicité. Mais c'était toujours les mêmes conclusions. On prenait en pitié la famille, la veuve, les enfants, et le repoussait la réhabilitation. La commission de la Chambre des Pairs proposait le renvoi au ministre de la Justice et le dépôt au bureau des renseignements. Celle de la Chambre des députés demandait le renvoi à M. le garde des Sceaux et à M. le président du Conseil des ministres. Seulement, cette fois, vu la détresse de la famille Lesurque, on insistait pour que M. le ministre de l'Intérieur fût saisi de l'affaire. C'était tout. Était-ce bien ce que l'on espérait? À la suite de ces divers incidents, le garde des Sceaux, désireux de se renseigner complètement, chargea M. le baron Zangiacomi, conseiller d'État et conseiller à la Cour de cassation, d'étudier les faits à nouveau, de vérifier les sources avec le plus grand soin et de lui présenter un rapport détaillé au double point de vue de la culpabilité de l'usurc et de la possibilité de sa réhabilitation. M. Zangiacomi se mit immédiatement à l'œuvre et le rapport qu'il livra peu après est le travail le plus consciencieux qui ait été fait sur la question. Nous ne suivrons pas le savant magistrat à travers les recherches auxquelles il s'est livré à ce sujet. Nous avons déjà largement puisé dans son rapport et nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur pour sa plus complète édification. Toutefois, nous croyons utile de lui emprunter les quelques lignes qui terminent son travail et dans lesquelles se trouvent résumés les arguments vraiment sérieux de la cause. L'usurque, dit-il, a en sa faveur la déclaration d'homme qui confesse avoir tué le courrier de Lyon et disent qu'ils n'étaient pas leurs complices. Mais d'autres témoins s'élèvent contre lui, disent et persistent à dire qu'il était parmi les assassins, qu'ils l'ont vu et qu'ils le reconnaissent. Veut-on compter les voix? Il y en a 3 pour l'usurque et 8 contre lui. Veut-on les peser? L'usurque a pour lui le dire d'hommes pervers, couverts de crimes qu'ils ont expiés sur l'échafaud. Et il a contre lui le témoignage de gens de bien, sans intérêt personnel, d'une réputation entière, car on n'a jamais ni attaqué ni suspecté leur moralité. La justice a, dit-on, condamné à la peine capitale 7 individus, et les auteurs du crime avouent qu'ils n'étaient qu'au nombre de 5 ou 6. On a par conséquent frappé une personne de trop. Cette personne est sans contredit l'usurque. C'est une chose fort remarquable que les condamnés variant sur un fait aussi important que le nombre de leurs complices, que les uns l'augmentent, que d'autres le diminuent. On peut juger par là de la foi qui est due à leur dire. Ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de l'usurque, il y a eu 6 hommes condamnés à mort, et l'on convient aujourd'hui qu'en ce qui les concerne, la condamnation est juste. Or, ajoute M. Giangiomani, ce n'est pas 6 coupables, mais bien 7 qui ont pris part à l'assassinat. Ce rapport, déposé le 7 août 1822, concluait au rejet de la pétition de la femme et des enfants de Zurk. Et le 30 du même mois, il recevait la sanction du comité de législation au Conseil d'État. Il est juste d'ajouter que l'année suivante, une simple demande en restitution des biens confisqués fut accueillie avec une réelle sympathie et qu'une décision ministérielle en date du 30 décembre 1823 accorda à la famille une première restitution de 224 815 francs. Les choses en étaient là lorsque se produisit un incident qui va tout à coup donner une autorité inattendue aux présomptions d'innocence qu'on cherchait depuis si longtemps à faire prévaloir. Le lecteur se rappelle sans doute ce digne juge de paix de Besançon, M. Jarry, auquel Dubosc et Claudine avaient eu affaire et qui avait contribué si habilement à leur arrestation. À cette époque, M. Jarry avait, paraît-il, adressé à M. le comte Siméon une lettre qui jetait une vive lumière sur les crimes dont Dubosc s'était rendu coupable. Mais cette lettre, on ne sait pas pour quelle cause, resta enfouie dans les cartons des greffes, et ce ne fut qu'en 1832 qu'elle revit le jour. Peut-être eût-elle attiré l'attention et pesé sur les décisions des juges de l'usurque si elle avait été publiée au moment où elle fut écrite. Mais, quoi qu'il en soit, et bien que découverte tardivement, elle servit puissamment la cause poursuivie par les héritiers. Voici cette lettre qui est datée du 6 novembre 1796 quelques jours seulement après l'exécution de Lesurques. Citoyens représentants, je viens de lire votre rapport sur l'affaire du malheureux Lesurques, condamné pour l'assassinat du courrier de Lyon. Mon cœur en est navré. Il est innocent. Moi seul, peut-être cause, eusse pu d'éclaircir ce fait. Mais hélas, il n'est plus, et tout ce que je vais vous apprendre sera sans fruit. Suit la relation des faits que nous avons racontés plus haut. Le vol de 2 millions effectué par Dubost, son arrestation à Besançon avec Claudine, et son évasion l'avant-veille de son jugement. Puis M. Jarry continue. Ce Dubosc avait les cheveux châtains et une perruque blonde. Les cheveux de face étaient lisses, il avait par derrière une cadenette retroussée. Je trouvais dans la valise une autre perruque noire. Il en changeait à volonté pour opérer le déguisement qu'il souhaitait. Ce Dubosc était déjà connu par des vols de tout genre. Il possédait à fond l'art du crime et depuis son évasion, lorsque j'apprenais que quelques crimes énormes s'étaient commis soit à Lyon, soit à Paris, je n'ai jamais douté qu'il n'en fût l'auteur. Lorsque j'ai lu votre rapport dans le Moniteur, j'ai reconnu les traits de Dubosc. Il m'a suffi de la perruque blonde pour le reconnaître. Cet homme était capable de tous les crimes. Veuillez informer le ministre de la Justice de ces faits. Le signalement du Dubosc est au greffe du tribunal criminel du département de la Seine. Qu'il donne des ordres les plus sévères pour le faire prendre. S'il reste libre, vous verrez encore des crimes horribles de sa façon. Lorsque j'instruisis son procès à Besançon, je me fis remettre à l'aide de la force armée par le directeur de la poste aux lettres, plusieurs missives écrites à Besançon, poste restante, tant par lui que par ses associés à des adresses supposées. J'y découvris et la drame et ce qu'il avait commourdi. Ces lettres sont déposées au greffe du tribunal civil de Lyon. Ainsi, citoyens, l'énonciation faite par Courriol du nom de Dubosc n'est pas le fruit de l'imposture, c'est la vérité toute pure. Vous trouverez peu d'ordre dans cette lettre, mais je vous l'écris encore plein de l'émotion que m'ont causé la lecture de votre rapport et la reconnaissance que j'ai eu lieu de faire des traits de Dubosc. Le sort de Lesurques m'arrache des larmes. Quelle victoire, victime des erreurs de l'humanité! Mais s'il se peut travailler à la réhabilitation de sa mémoire, ce sera la stérile consolation de sa famille. Votre concitoyen, Jarry. Cette lettre, trop longtemps ignorée, provoqua une profonde impression, tant à cause de sa date même qu'en raison du nom honorable dont elle était signée, et les hommes qui avaient pris si généreusement en main les intérêts des héritiers, Lesurques, s'en firent une arme légitime pour la revendication des sommes qu'ils réclamaient. Et pour ne rien laisser dans l'ombre en cette histoire, il faut dire aussi que cette lettre raviva les souvenirs oubliés de Dubosc et de Claudine, et que l'opinion publique s'inquiéta de savoir ce qu'était devenue la femme qui avait su l'intéresser un moment à force d'amour et de dévouement. Chapitre 63. Fin de Claudine. La vie de Dubosc avait eu son dénouement terrible. Mais comment avait fini la malheureuse Claudine? On savait qu'elle avait été enfermée à la prison de Dourdan, mais depuis, que s'était-il passé? Claudine avait-elle fait quelque aveu tardif? N'avait-elle pas cherché à s'évader, ou vivait-elle encore dans son cachot, courbée sous les lourds remords de son passé coupable? On s'enquit et l'on apprit enfin la vérité. Il n'y avait pas encore longtemps, Claudine était enfermée à Dourdan. Elle y vivait solitaire, sombre, presque farouche, repoussant toute société, refusant tout secours, fronçant le sourcil, crispant les poings, chaque fois que le digne aumônier de la prison tentait de lui parler au nom du Dieu qui pardonne. Claudine n'était plus à cette époque la jeune femme que le lecteur a connue, robuste, ardente, résolue. Pâle, chétive, malingre maintenant, elle semblait porter en elle un chagrin cuisant qui la minait. Ses yeux s'étaient cernés, ses cheveux avaient blanchi, et sa poitrine amaigrie ne se soulevait plus qu'avec effort sous son souffle haletant et pénible. Pour ceux qui ignoraient son passé criminel, c'était un spectacle navrant. Il y avait chez cette femme une immense douleur et chose terrible. Depuis qu'elle était à Dourdan, elle n'avait pas versé une seule larme. Elle ne pouvait plus pleurer. Plusieurs fois, elle avait été obligée de s'aliter. On croyait autour d'elle qu'elle était perdue et qu'elle allait mourir. Mais sa nature énergique reprenait bientôt le dessus, et quelques jours après, elle sautait à bas de son lit et recommençait sa vie monotone et taciturne. Cela dura longtemps, sans que nul pût prévoir quand la mort aurait raison de cette organisation exceptionnelle. Une nuit, cependant, un cri de détresse, appel désespéré, troubla tout à coup le silence des vastes salles de la prison. Les gardiens s'émurent et en quelques secondes, on entoura le lit d'où le cri était parti, et l'aumônier, mandé en toute hâte par le médecin, s'agenouilla au chevet de Claudine. Oui, c'était elle. Depuis quelques jours, elle souffrait horriblement, sans en rien dire à personne. La nuit avait été fort agitée. Une fièvre ardente brûlait ses veines. Le sommeil l'avait vaincue un moment, mais elle s'était réveillée tout à coup, et, suante, effarée, elle avait jeté un cri de terreur. C'est que dans le rêve que la fièvre venait de lui envoyer, elle avait vu une chose effrayante. Dubosc, le spectre de Dubosc lui avait parlé dans ce rêve poignant. Il tendait vers elle ses deux mains sanglantes et de ses doigts crispés, il cherchait à l'attirer dans un gouffre sans fond. La misérable ne pouvait se remettre de l'épouvante qu'elle avait éprouvée. Ses dents claquaient, un râle pénible serrait sa gorge, et ses bras osseux et nus s'agitaient dans le vide, cherchant à repousser le spectre menaçant. La crise passée, elle retomba sans force et sans voix sur son lit, et fondit en larmes et en sanglots. « Guillaume ! Guillaume ! » disait-elle dans son délire. « C'est toi ? Je t'ai vu. Tu viens me chercher. Oh, je te ferai pas attendre. » Puis elle promenait un regard vague autour d'elle et semblait chercher à comprendre ce qui s'était passé. Cet état dura jusqu'au jour où elle se rendormit de nouveau. Le médecin ne l'avait pas quittée. Il jugeait la position très grave et ne voulait pas l'abandonner. Seulement vers le soir, il fit un signe à l'abbé qui s'approcha et se penchant à son oreille. « Maintenant, dit-il, c'est à votre tour. N'y a-t-il plus d'espoir ?» demanda le prêtre. « Oh, elle est perdue. » Elle va mourir. Oh, avant 3 heures, elle aura rendu l'âme. Le médecin se retira. Quand le prêtre s'approcha du lit et commença à réciter les prières des agonisants, la malade releva sa tête pâle et se prit à le considérer avec une profonde attention. Le prêtre suspendit un moment ses prières. « Vous voulez me parler, mon enfant ?» lui dit-il avec douceur. « Vous parlez ?» répondit Claudine d'une voix faible. « Et pourquoi faire ? Vous souffrez ? Oui, beaucoup. Voilà longtemps déjà. Oh, trop longtemps, monsieur. Je sens bien que c'est la fin. Y pensez-vous? Claudine eut un amer et douloureux sourire. Oh, je n'ai pas peur, dit-elle en remuant tristement la tête. J'ai vu souvent la mort de bien près. Mais alors il y avait quelqu'un à mes côtés, quelqu'un que j'aimais et qui m'aimait aussi. De sorte qu'à cette heure, si j'appréhende la mort, c'est que... Achevé? C'est que la mort, c'est le néant. Qui vous l'a dit? N'est-ce donc pas vrai? Non, mon enfant, non, cela n'est pas vrai, car au-delà de la mort, il y a Dieu. Dieu, fit Claudine avec un geste violent. N'y avez-vous jamais pensé? Est-ce qu'il me connaît? Il connaît tous ceux qui souffrent, et il les aime, malgré leurs fautes et leurs crimes. Claudine fit un mouvement. Cette parole simple et grande l'avait frappée. Elle regarda le prêtre avec ses deux grands yeux pleins de fièvre. « Oh, si je pouvais croire cela !» balbutia-t-elle avec défiance. « Et pourquoi ne le croiriez-vous pas ?» insista le prêtre. « N'est-ce pas une consolation suprême ? Ne seriez-vous pas heureuse au moment de quitter la vie, de savoir que vous pourrez revoir dans un monde meilleur ce que vous avez aimé sur cette terre ?»« Mais ce n'est pas possible. C'est certain, au contraire. Vous voulez me tromper. Dans quel but ? Est-ce que je sais, moi ? Jamais on ne m'a dit que je pourrais revoir Dubosc. Mais c'est que jamais vous ne l'avez demandé à Dieu lui-même. » Et que fallait-il faire pour cela? Il fallait prier. Claudine se tut. Elle ne comprenait que confusément encore. Tout ce qu'on lui apprenait là était étrange et nouveau pour elle. Mais sa pensée pleine de ténèbres se tournait obstinément vers cette lumineuse échappée que la religion ouvrait pour la première fois devant elle. D'ailleurs, elle subissait dans ce moment l'influence d'un sentiment dont la profondeur la pénétrait à son insu. Claudine était à deux doigts de la mort. La vie l'abandonnait peu à peu. Des frissons glacés couraient sur ses épaules. La sueur perlait à ses tempes. Les ailes de ses narines se dilataient démesurément pour aspirer l'air qui manquait à sa poitrine. « Encore, parlez-moi encore, » dit-elle avec effort. « Il me semble voir des formes bizarres autour de moi. C'est la mort, n'est-ce pas ?»« Peut-être. Mon Dieu, si tout était fini, si en effet il n'y avait plus que le néant, vous repentez-vous ? Oui, mon père, oui, je me repens. C'est une horrible vie que celle que j'ai menée. Et si je pouvais la recommencer, si je pouvais... » Elle se tut. Son œil s'ouvrit atone et fixe, et son bras s'étendit vers un angle obscur de la salle. « Là, là » râla-t-elle éperdue. « Qu'y a-t-il ? » fit le prêtre. « La mort, c'est elle, je la vois. » « Priez. Mon Dieu, à moi. « Oh, pardon, pardon, je meurs, je... » Elle s'était dressée affolée sur le lit. Elle retomba lourdement sur son oreiller, se cramponna à ses draps avec fureur, et après deux ou trois convulsions suprêmes, ses membres se raidirent dans l'immobilité de la mort. Elle avait vécu. Et cependant, qu'était devenue son âme troublée, que l'amour terrestre n'avait pu purifier? Où est-elle allée en quittant ce monde de douleur? Et Dieu l'a-t-il prise en pitié? Il est au-delà de la tombe une balance redoutable où sont pesées toutes nos actions. Dans l'un des plateaux, Dieu a mis sa justice et elle est implacable. Mais dans l'autre, il oublie parfois sa miséricorde, et elle est infinie. Chapitre 64. la fille de Lesurc. Nous avons déjà dit qu'une première somme de 224 815 francs avait été allouée à la famille Lesurc, qu'il a reçue en faisant toute réserve et cependant à titre d'acompte. Je lis à ce sujet, dans une brochure toute favorable à Lesurc, la singulière phrase que voici. Mais tandis que les tribunaux rendaient leur jugement, affaire Folleville, la somme restituée à la famille s'engloutissait dans les frais, et des années s'écoulaient sans que la famille puisse s'occuper de la réhabilitation. Le malheur de la veuve et des enfants Lesurc est sans contredit de tout point respectable et digne des sympathies de tous les honnêtes gens. Mais il faut avouer que les amis sont parfois bien malhabiles, et je me demande s'il est possible d'admettre que 224 000 francs aient pu être absorbés par les frais d'un procès. Le chiffre de cette restitution ne représentait pas la valeur des biens confisqués, c'est incontestable. Mais il constituait déjà une réparation matérielle considérable, et j'aime à penser qu'elle dut apporter une aisance relative dans cette famille si cruellement éprouvée. Au surplus, et quoi qu'il en soit, cette première opération rendit l'espoir à la veuve, et la découverte de la lettre Jarry aidant, elle se représenta bientôt devant les chambres avec de nouvelles et pressantes pétitions. On était alors au mois de mai 1833. Monsieur Merlin de l'Aveyron fut nommé rapporteur de la commission des pétitions et il appuya la réclamation de Madame Lesurc, qui fut prise en sérieuse considération. Toutefois, la question de la réhabilitation fut prudemment écartée et la discussion ne porta que sur la restitution à effectuer du restant des biens indûment confisqués. Un acompte de 15 000 francs fut encore donné à la famille, et enfin, en 1834, on accorda à la veuve Lesurc, comme complément des sommes dues, une dernière indemnité de 252 100 francs. Tout compte fait, la restitution s'élevait donc à peu près de 500 000 francs. L'injustice était ainsi réparée au point de vue matériel. Et si la justice gardait son opinion et ses doutes sur l'innocence de Lesurc, la veuve, du moins, pouvait en mourant emporter la tardive consolation de voir ses chers enfants à l'abri de la misère. On eût dit qu'elle n'avait attendu que ce moment pour quitter ce monde. À partir de cette époque, en effet, sans abandonner jamais l'espoir d'entendre un jour réhabiliter la mémoire de son mari, on la vit s'incliner peu à peu vers la tombe et se préparer doucement et saintement à la mort. Pendant ses longues années de veuvage, elle avait conservé ses habits de deuil. Elle les avait pris au moment de l'exécution, et quand la mort vint, au bout de 46 années, elle la trouva vêtue de noir comme au premier jour de son veuvage. Cette femme fut une martyre de l'amour conjugal. Elle mourut le 13 septembre 1842, entourée de ses enfants et de ses amis, les invitant encore, comme dernière recommandation, à ne se reposer que le jour où l'innocence du chef de la famille aurait été solennellement reconnue. Après le fils, qui avait payé de sa vie l'espoir d'obtenir la réhabilitation de son père, après la mère qui était morte à la peine, le pieux devoir de famille revenait à Mélanie Lesurc, la fille aînée de Lesurc. Elle se dévoua de tout cœur à cette noble mission, mais le courage lui faillit un jour. Ces derniers mots rappellent une triste histoire. Vers l'année 1846, des dispositions bienveillantes s'étaient manifestées de tous côtés et l'on pouvait espérer, sinon une réhabilitation légale, impossible d'après la législation existante, du moins une réhabilitation morale. Il s'agissait en outre d'obtenir encore une dernière somme de 75 000 francs, représentant le montant retenu encore des dommages-intérêts dus à l'État solidement par tous les condamnés. Le ministre des Finances avait témoigné hautement de ses bonnes intentions. Mais au moment où tout allait être résolu dans le sens de la réhabilitation, un nouvel obstacle surgit. Chapitre 65. La nouvelle loi. Quand Mademoiselle Le Zurc, qui était alors Madame d'Anjou, se présenta au ministère, M. Bailleurat, chef du bureau des grâces, lui répondit que sa demande était encore une fois repoussée, parce que l'on n'était pas certain de l'innocence de son père. Ces paroles frappèrent la pauvre femme au cœur. La douleur la rendit folle, et quelques jours après, la malheureuse se précipita du pont d'Austerlitz dans la Seine. À partir de cette époque, des efforts furent tentés à plusieurs reprises, et d'année en année, on vit reparaître devant les chambres des pétitions demandant la réhabilitation de Le Zurc. En 1862, Maître Jules Favre, bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour impériale de Paris, rédigea une savante consultation dans laquelle il discute de la question légale et montre la nécessité de la révision de l'article 443 du Code d'instruction criminelle. Tous les experts éclairés du barreau l'appuyèrent de leur autorité. Mais la question n'avait pas encore fait son chemin, et ce ne fut qu'en 1867 que de nouvelles dispositions furent introduites dans la loi. Sous l'ancienne monarchie française, disait M. Pinard, le droit de révision était à peu près illimité. Il était étrange qu'il en fût autrement. La révision illimitée s'expliquait alors par les abus dont elle devenait le remède. Elle était un mal relatif, corrigeant un autre mal. Plus une organisation judiciaire est défectueuse, plus la législation octroie libéralement le droit de révision. Et plus vous la perfectionnez, plus le droit de révision se restreint. La révolution de 1789 emporte le système judiciaire de l'ancien régime, et la révision illimitée disparaît en même temps. À l'Empire appartiendra la gloire de constituer fortement pour l'avenir une société rajeunie. Une base solide et respectée est donnée désormais à notre organisation judiciaire. Satisfait de son œuvre, le législateur lui doit une sanction. Cette sanction sera l'autorité de la chose jugée. Il faut ce principe à l'accusé qui ne pourra jamais être poursuivi deux fois, dut-il répondre à son acquittement par l'aveu cynique de sa culpabilité. Il le faut au juge, dont le prestige s'affirme dans la mesure où son arrêt devient indiscutable, et il le faut à la société, qui a besoin de certitude pour avoir la stabilité. Et le code d'instruction criminelle admet trois couvertures à révision, et suivent les détails. Cette législation est-elle suffisante? L'opinion a répondu négativement, en faisant aux législateurs des appels successifs qui ont éveillé chaque fois sa sollicitude. De ces réclamations réitérées se dégage cette pensée toujours poursuivie avec persévérance. La honte survit au décès. Il faut donc autoriser la réhabilitation. L'idée est juste en soi. Une législation sonore en proclamant que lorsque l'homme n'est plus, il reste encore quelque chose de lui. La justice sera convaincue d'erreur, mais la grandeur du bienfait qu'elle accordera n'effacera-t-elle pas le souvenir du premier arrêt? Si l'aveu courageux d'une faute n'avilie jamais le coupable, la reconnaissance d'une erreur involontaire relève l'homme privé et ne peut abaisser la justice d'un grand pays. Voilà le principe qui a inspiré la loi etc., etc. Il faudrait tout citer, vraiment, l'espace nous manque. À cet exposé des motifs, Maître Nogent Saint-Laurent, rapporteur au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, ajoutait: Tout ce qui est humain est faillible, et notre justice répressive n'a pas l'orgueil de l'infaillibilité. Il est arrivé qu'elle s'est trompée, ou plutôt qu'on l'a égarée, en semant sur sa route les inconvénients inévitables du faux témoignage, de la fraude et de la mauvaise foi. La révision, dans l'état actuel de la législation, n'existait, sauf un cas, qu'au profit des vivants. Le projet étant ce bénéfice aux condamnés qui seraient morts victimes d'une erreur judiciaire. Le rapport de l'éminent député cite ensuite un remarquable exemple à l'appui de son opinion. Dernier chapitre 66. Conclusion. Monsieur Nogent Saint-Laurent continue son rapport en ces termes. La mémoire du mort doit être assimilée à l'honneur du vivant. L'un et l'autre sont la force ou la faiblesse, l'éclat ou la honte d'une famille. L'homme se survit à lui-même par le souvenir, par la descendance, et lorsqu'il est mort, son nom ne doit pas rester dans la flétrissure s'il ne le mérite pas. Il est arrivé, continue M. Nogent Saint-Laurent, que le 1er avril 1854, la cour d'assises du Finistère condamnait les nommés Louarn et Buffet, le premier aux travaux forcés à perpétuité, l'autre à 20 ans de la même peine pour vol la nuit à main armée dans une maison habitée. L'un est mort au bagne de Brest en 1855. L'autre est mort à Cayenne en 1856. Et le 21 janvier 1860, la même cour d'assises condamnait pour le même fait 4 accusés aux travaux forcés à perpétuité à 20 ans, à 15 ans de la même peine. Et Louarn et Buffet étaient innocents, mais ils étaient morts. On ne put réviser leur procès. L'acte d'accusation dressé dans la deuxième affaire contenait le passage suivant: Les véritables coupables sont aujourd'hui sous la main de la justice. Ils attendent le châtiment qu'ils ont si justement mérité. La mort de Louarn et Buffet ne rend plus possible la réparation de l'erreur judiciaire dont ils ont été victimes. Mais les débats de cette affaire et le nouveau verdict du jury seront pour leur mémoire une éclatante et solennelle réhabilitation. Avec le projet, ajoutait M. Nogent Saint-Laurent, la réparation de l'erreur eût été possible. Le projet fut adopté par le corps législatif dans sa séance du 11 mai 1867, et la loi fut promulguée le 29 juin de la même année. En voici les principales dispositions. Loi sur la révision des procès criminels et correctionnels. Article 1er. Les articles 443, 444, 445, 446 et 447 du Code d'instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les articles suivants. Article 443. La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui est statuée dans chacun des cas suivants. Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu, et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné. Article 444. Le droit de demander la révision appartiendra, premièrement, au ministre de la Justice, deuxièmement, au condamné, troisièmement, après la mort du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. La Cour de cassation, section criminelle, sera saisie par son procureur général en vertu de l'ordre express que le ministre de la Justice aura donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des cas ci-dessus spécifiés. Article 446. Lorsqu'il pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond, sans constation préalable, ni renvoi en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs de mes parels à la mémoire de chacun des morts. Dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avaient été injustement portées, et déchargera, si elle a lieu, la mémoire des morts. 2. Dans tous les cas où la condamnation donnant ouverture à révision dans les termes de l'article 443, paragraphes 2 et 3, serait antérieure à la présente loi, le délai fixé par l'article 444 pour l'inscription de la demande courra à partir de la promulgation. Et c'est en vertu de cette loi que les héritiers Lesurgues demandent aujourd'hui la révision du procès à la suite duquel leur aïeul a été condamné. Fin.